Oui, c'est pour vous donner des nouvelles de la Martinique, puisque je vois que la censure s'organise bien en France pour pas ébranler le gouvernement. Je vous signale que la Martinique est en grève générale et illimitée depuis jeudi dernier, c'est donc 7 jours révolus. Plus une goutte d'essence, toutes les écoles, lycées, collèges fermés, villes mortes, magasins rideaux baissés, enfin il n'y a aucune activité, seuls circulent ceux qui ont encore un peu d'essence dans le réservoir. Il ne se passe rien. Et on nous dit qu'il y a eu un accord de 20% sur les prix, mais enfin cet accord de 20%, d'abord n'est pas encore signé, et c'est un centième des revendications. Par conséquent, le mouvement continue, s'amplifie, et la Martinique est île morte, mais ça les journalistes français apparemment ça leur monte pas au cerveau. C'est normal, la voix de son maître fonctionne bien. Merci, au revoir.
Alors Benoît XVI a réintégré dans le corps de l'Église Monseigneur Williamson. Dans ce cas-là, il y a toutes les chances qu'il réintègre Monseigneur Gaillot, qui lui n'a pas été excommunié, mais qui c'est à peu près la même chose. Il a été nommé évêque de Parthenia. Sauf que Monseigneur Gaillot a commis une faute beaucoup plus grave que de nier la Shoah. Il a encouragé le port du préservatif.
Allez, viens ma poule, je t'emmène en Irak. Tu sais pas, on va aller leur vendre des centrales nucléaires, des armes, enfin on va leur vendre de la reconstruction. Hein, on va essayer de passer avant les Amerlocs. Ça va être super. Tu viens avec moi, Bernard? Voilà, vaut mieux rester anonyme maintenant, parce que vu que le gouvernement vire les préfets, qu'est-ce que ça va être pour les petits gens pour nous? Enfin.
Voilà, j'en ai marre qu'on tape sur Nicolas Sarkozy. Je dis bravo à M. Sarkozy d'avoir poussé la porte de Bagdad afin de décrocher des marchés. Courage, continuez, nous avons confiance en vous. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons vraiment l'opposition la plus bête du monde. Et dans cette crise mondiale, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, personne ne défile dans les rues. D'ailleurs, Zapatero leur dit « serrons les coudes ». En France, l'opposition travaille uniquement à mettre les gens de l'huile sur le feu, à faire peur, à faire soulever les Français, à défiler, et souhaitent qu'ils prennent le même chemin de la révolution comme en Guadeloupe, etc. Dixit, Ségolène Royal. Alors, quelle est la solution? Alors, que le PS et le PC travaillent ensemble avec nous et trouvent la solution. Si elle est bonne, on ne manquera pas de l'appliquer. Salut!
Salut les AMG de l'Isère, le repère du sabot des muses de Saint-Bernard-du-Touvet vous accueille le vendredi 13 à 18h30 pour parler de quoi, Lola?
De la décroissance.
Merci Lola. Avec Séverine Millet, auteur de la stratégie du colibri, et Thierry Touvenot, co-auteur de Planète Attitude. On vous attend.
Monsieur Mermet, bonsoir. Je vous demande à quand une émission sur les lobbies arabo-musulmans dans le monde, et en particulier à l'ONU, à l'UNESCO, à la francophonie, pour faire condamner en permanence Israël. Monsieur Mermet, à quand une émission sur les juifs arabes qui ont tout perdu dans tous les pays arabes où ils étaient nés depuis des générations et des générations, et qu'ils ont vécu comme citoyens de seconde zone, et qui ont été victimes de l'histoire, comme vos très chers Palestiniens, avec qui je compatis d'ailleurs, qui ont perdu tout, les oliviers, les biens, et bien souvent, et très souvent la vie, monsieur Mermet. De temps en temps, changer un peu de discours, ça fera plaisir à d'autres personnes. Merci, à bientôt.
Bonjour à tous. Alors un petit message pour vous rappeler que le Café Repère de Nancy se réunira ce mercredi 11 février à 20h30 au bar Le Royal. Alors le bar Royal est situé rue Mont-des-Verts et donc à Nancy. Alors comme l'actualité est plutôt chargée, on a choisi de ne pas choisir le thème de la discussion. Et donc tous les sujets sont les bienvenus. À ce soir.
Il doute de rien quand même à Marseille. Je veux dire, le repère là-bas, si j'y suis, de Marseille. Ils organisent la diffusion de Chomsky et compagnie, en présence de Daniel Mermet, qui plus est, le soir même, où la cité phocéenne, comme disent les commentateurs sportifs, montre ainsi qu'ils ont bien assimilé le conseil que leur donnait leur professeur de français, d'utiliser une périphrase pour désigner deux fois le même objet, afin d'éviter une répétition. Le soir même donc, où la cité phocéenne accueille dans ses murs, autrement dit, Ourbi, comme dirait Benoît XVI, le dieu vivant du football, je veux dire, mesdames et messieurs, Don Diego. Non mais attendez, faut pas rêver là. Vous allez avoir personne. Et si jamais Chomsky et Mermet font ça le comble, alors que Diego Maradona est en ville, c'est que là-bas, si j'y suis, est devenu une secte. Ou alors, la diffusion de Chomsky ce soir à Marseille, c'est le prétexte qu'a trouvé Daniel pour approcher Diego. Je parie qu'il a réservé une chambre à l'hôtel Pullman Palm Beach de manière à pouvoir faire la fête avec El Pibe de Oro. Daniel va profiter de sa fréquentation de la famille Chao pour être introduit auprès du plus grand footballeur de l'histoire et nous ramener une interview. Bon, s'il te plaît Daniel, n'oublie pas de lui demander deux autographes pour mes deux fils. Ils sont grands maintenant, mais ça leur fera plaisir. Sacré Daniel, va. Moi, il n'y a qu'une seule personne à Marseille qui aurait pu me détourner de Maradona. C'est Pascal Pascariello. Allez, la bise.
Et la bise, Claude, et la bise à tous et à toutes, auditeurs, auditrices modestes et géniales. En effet, je serai ce soir au Prado à Marseille, en concurrence avec Maradona, pour la projection du Chomsky et compagnie qui sera à 20h au Prado, donc. Et puis demain, ce sera Arras, au Ciné Movida. La séance sera à 18h. Alors, je peux vous donner le score ce soir. J'ai le score à l'avance. 56 à 5. 56 à 5. Ça fera partie du débat, non pas du match peut-être, mais en tous les cas du débat. Pourquoi ? Parce que 56 à 5, c'est le score qu'avait établi Eric Alterman, qui est un spécialiste des médias aux États-Unis, et il avait dénombré le nombre d'éditorialistes dans la presse américaine en faveur systématiquement et inconditionnellement d'Israël, 56, et seulement 5 experts qui critiquaient systématiquement le comportement israélien ou défendaient des opinions pro-arabes. 56 à 5 dans la presse américaine. Alors on en parlera ce soir autour, évidemment, du travail de Chomsky sur la fabrique du consentement, etc., etc. Mais pourquoi ça ? Comment est-ce qu'on en arrive à ça ? 56 à 5, hein ? Un tel score. Eh bien, c'est notre sujet depuis lundi. Le lobby pro-israélien n'y est pas pour rien. Non pas que ce lobby pro-israélien puissant et très puissant soit en quoi que ce soit assimilable à un complot, mais ça marche, il marche comme tous les autres lobbies. Il exerce son influence par toute une série de moyens que nous mettons en lumière depuis lundi, avec les deux auteurs de cet ouvrage, le lobby pro-israélien, c'est-à-dire John Mearsheimer et Stefan Walt, qui nous explique comment fonctionne ce lobby. On va leur demander aujourd'hui comment ce lobby fonctionne aussi sur le Congrès, à nouveau, sur Gaza, par exemple, sur ce qui s'est passé à Gaza. Et puis, évidemment, on aura des gens comme Alan Dershowitz, qui sont opposé, mais alors on ne peut plus opposer à ce livre et à ses auteurs. Bref, il va y avoir du sport d'ici à 16h dans Là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour les AMG, et oui, encore une fois, le café repère de Savigny-sur-Orge au café chez Tonton aura lieu ce mercredi 11 février, donc au café chez Tonton, et nous allons parler aujourd'hui de la justice, à 20h30, au café chez Tonton, 37 rue de la Liberté, à Savigny-sur-Orge, en Essonne. Qu'on se le dise. Salut les AMG.
Oui, salut Daniel, Henri de Nice. Oui, je t'appelle un petit peu en urgence, si tu pouvais passer l'info cet après-midi. Il y a ce soir sur FR3, vers 20h35, une émission très intéressante sur le nucléaire et tout ce que le lobby nucléaire essaie de nous faire gober. Merci beaucoup, bon boulot et continue bien. Merci pour tout. Ciao.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. C'est Séverine dans le Puy-de-Dôme. C'est donc pour vous annoncer le vendredi qui arrive un nouveau repère des auditeurs modestes et géniaux du livre de Forez à 18h30 chez Zico autour du thème Presse alternative ou comment galérer avec quelques lecteurs, animé par Christophe Gobi. Vous êtes tous les bienvenus, on vous attend nombreux. Merci, à bientôt et bon courage.
It is wonderful being here with all of you among
Sénatrice Hillary Clinton, 4 juin 2008.
So many friends.
C'est merveilleux d'être ici avec vous parmi tant d'amis.
The largest APAC gathering in history, and I feel like I am among family. And thank you for the warm welcome.
Le plus grand rassemblement de l'APAC dans l'histoire, et je me sens comme à la maison. Et merci pour l'accueil chaleureux.
APAC is America's pro-Israel lobby.
L'APAC est le lobby pro-israélien des États-Unis.
It's an organization of hundreds of thousands of Americans.
Ça représente des centaines de milliers d'Américains.
Of all faiths and backgrounds.
De toutes les fois et de tous les parcours individuels.
Who care about a strong U.S.-Israel relationship.
Qui sont soucieux d'avoir des liens forts entre Israël et les États-Unis.
Just as America is deeply fortunate to have a close friend in Israel.
De la même façon que les États-Unis ont la chance d'avoir un aussi bon ami qu'Israël.
Sénateur John McCain, 2 juin 2008.
Israel is privileged to have a supporter in APAC.
Israël a le privilège d'avoir le soutien inconditionnel d'APAC.
Virtually anybody who criticizes Israel's policies or who criticizes what the lobby is advocating is going to be accused of being anti-Semitic.
Oui, virtuellement tous ceux qui critiquent ou la politique d'Israël ou la politique menée par ce lobby pro-israélien sont exposés à se faire critiquer, à se faire traiter d'antisémite.
And I know that when I visit APAC,
Sénateur Barack Obama,
et je sais que quand je viens à APAC,
I'm among friends.
Je suis chez des amis.
4 juin 2008.
Good friends.
De bons amis.
Est-ce qu'il serait possible aux États-Unis qu'un candidat soit élu s'il manifestait son soutien à la cause palestinienne dans n'importe quel poste aux États-Unis?
History says no.
L'histoire dit
one
que non.
One or two have and they lost.
Il y en a un ou deux qui ont essayé, ils ont tous perdu.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Vantil, le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. Voyage autour d'un tabou. Arriving from New
York. Your love and support for the state of Israel.
Votre amour et votre soutien envers l'État d'Israël
ensures that the alliance between Israel and the United States
garantit que l'alliance entre les États-Unis et l'État d'Israël sera toujours défendue.
If you really want to make a meaningful difference,
si vous voulez vraiment peser,
APAC is the place to be.
C'est aux côtés de APAC qu'il faut vous engager.
There is much work to be done.
Il y a beaucoup de travail à faire.
And only us.
Et nous seuls pour le faire.
Alors, pas de conspiration, pas de complot.
That's right. APAC has a large building in Washington.
Oui, APAC, par exemple, a un très grand bâtiment à Washington.
Other groups are similarly operating out in the open. They have websites, they publish articles and books
Stephen Walt.
And
tous ces
groupes editorials.
Aussi, ils travaillent ouvertement, ils ont leur site internet, ils publient des livres, des éditos, ils font des prises de position.
There are about 36 political action committees. These are fundraising organizations that raise money for candidates, and there are about 36 of them that are pro-Israel. Their purpose is to raise money for candidates and give it to people running for office who they believe will support a special relationship.
Il y a par exemple plus de 36 de public action committees. C'est-à-dire des groupes qui lèvent des fonds pour des candidats, mais c'est des groupes public action committees qui lèvent des fonds pour des candidats qui prennent des positions en soutien à Israël.
Right. So if you're running for office in the United States, either for Congress or for president,
si on est en campagne politique, que ce soit pour le Congrès ou pour la présidence des États-Unis,
you know that if you are strongly supportive of Israel, you're going to find it easier to raise money and easier to get support from these groups.
Et donc, on sait, si tu veux être candidat, que si tu veux pouvoir lever des fonds, ce sera beaucoup plus facile de lever des fonds si tu as une position pro-Israël.
But if these groups decide that you might want the United States to distance itself a little bit from Israel, that you might not be reliably pro-Israel, then they will work to try and make sure your opponents get elected.
Mais par contre, si on prend des positions qui ne sont pas juste un alignement pur et simple sur la politique d'Israël, qui voudraient par exemple qu'il y ait une petite distance par rapport au choix politique d'Israël, alors ces groupes feront en sorte que ton opposant politique, lui, bénéficie d'un maximum d'aide politique.
And that's why in the last election, you saw Senator McCain, Senator Clinton and Senator Obama all competing with each other for who could try to show that they were the best friend to Israel.
Et c'est pour ça qu'au cours de la dernière campagne présidentielle, le sénateur McCain, la sénatrice Clinton et le sénateur Obama ont presque fait la concurrence les uns avec les autres pour savoir qui serait celui qui serait le mieux vu comme étant le meilleur ami d'Israël.
It's just the smart thing for any politician to do.
C'est la chose la plus évidente à faire pour n'importe quel politicien.
Est-ce que ça veut dire qu'au cours de la campagne, ni McCain, ni Hillary Clinton, ni Obama n'ont évoqué la question palestinienne?
Non, because there was no... there were no votes, no substantial votes or substantial campaign funds to be gained by expressing sympathy for the Palestinians.
Parce qu'il n'y avait aucun bénéfice politique, aucun bénéfice financier à soutenir la cause palestinienne au cours de cette campagne.
And I believe that President Obama will try to move American policy in a more even-handed direction, but he'll do it not because he has enormous sympathy for the Palestinians, although he may have some, but because doing that would be good for the United States to bring that conflict to an end, and because it would be good for Israel as well.
Et je pense que maintenant qu'il est élu, président Obama risque d'avoir une politique plus équilibrée dans le Proche-Orient, mais pas simplement pour le bien de la cause palestinienne, mais parce que ça sera bénéfique à la politique américaine et bénéfique à la situation d'Israël dans la région.
Que fera Obama? Que veut faire Obama? Que peut faire Obama? On spécule, on épie, on commente. Il y a les pessimistes et il y a les béats. Il faut dire qu'aujourd'hui aux États-Unis, les béats sont plus nombreux que les pessimistes. C'est comme ça, ça s'appelle l'état de grâce. Que va faire Obama? Que peut faire Obama en ce qui concerne le Proche-Orient, par exemple, vers lequel aujourd'hui les yeux sont tournés avec les élections en Israël? Il faut d'abord savoir que le pouvoir du président américain est plus limité que celui du président français. C'est vrai, le président américain est plus grand que le président français, mais son pouvoir est plus limité. Et oui, il est le président du pays qui est encore le plus puissant du monde, peut-être pas pour longtemps. L'hégémonie américaine est en question. On serait peut-être entré dans le véritable déclin de l'Empire américain, mais pour l'instant, quand même, il est à la tête du pays le plus puissant du monde. Mais il a moins de pouvoir. Pourquoi a-t-il moins de pouvoir? Parce que, à la différence de la France, où l'Assemblée nationale et le Sénat ont les pouvoirs limités, très limités, que vous savez, aux États-Unis, le Congrès a un pouvoir certain sur le président et sur la Maison-Blanche. Et sur le Congrès, il y a les lobbies qui exercent leur influence et leur pression en toute transparence et en toute légitimité. Parmi ces lobbies, l'un des plus puissants est le lobby pro-israélien. Ce lobby pro-israélien donc fait pression sur le Congrès, qui fait pression sur le président, et donc le président dépend indirectement ou directement de la pression de ce lobby. Il a beau dire, et c'est très bien, qu'il ne fera pas la politique des lobbies, néanmoins, les lobbies sont puissants, et celui-là, tout spécialement pour cette question-là. Les questions que je pose là, depuis longtemps, on se les pose aux États-Unis, on observe,
Et assez curieusement, d'ailleurs, c'est un sujet qui est assez peu connu en France, le lobby pro-israélien. C'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet tabou. On a peur, évidemment, en abordant ce sujet du terrorisme intellectuel ambiant depuis pas mal d'années, qui veut que dès que vous abordiez ces questions, simplement, en journaliste qui veut s'informer, vous courriez le risque de vous trouver soupçonné ou condamné pour antisémitisme. C'est exactement la même chose aux États-Unis. Mais tout de même, deux chercheurs, deux valeureux et prestigieux chercheurs, Mersheimer et Walt, se sont lancés dans une étude de ce lobby, de son fonctionnement. Ça a donné d'abord un rapport, un texte d'une quarantaine de pages qui n'a pas pu être publié aux États-Unis, mais dans une prestigieuse revue britannique. Et le succès considérable de ce texte, de ce rapport, a fait que ce rapport a été suivi d'un livre traduit dans plus d'une vingtaine de langues, dont en français sous le titre « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine ». Ce livre, les auteurs nous l'ont dit, on a pu le constater, a changé les choses. N'a pas tout changé, mais a changé les choses. En tout cas, il nous a semblé assez intéressant et surtout très bien fait, très bien documenté, avec beaucoup de rationalité, de calme et de distance pour que nous nous intéressions, nous fassions ce voyage autour de ce tabou. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Est-ce que vous pensez que le lobby pro-israélien a eu une influence quelconque sur l'offensive de l'armée israélienne à Gaza?
Once the war began, the lobby, working closely with the Israeli government, helped promote Israel's image around the world.
Une fois que la guerre a commencé, là, le lobby, en travaillant étroitement avec les gouvernements, a aidé à promouvoir l'image d'Israël dans le monde.
De quelle façon?
It went to great lengths to put pressure on the mainstream media in the United States not to criticize Israel.
D'abord en faisant pression sur les grands médias américains pour pas qu'ils ne critiquent Israël.
And it sent out large numbers of individuals who defended Israel at every turn.
Et aussi en mobilisant plein de gens qui défendent Israël coûte que coûte.
Israel understood before the conflict started that it would be charged with committing war crimes.
Israël savait avant même le début du combat qu'on agiterait l'accusation de crime de guerre.
There was no way that a powerful military like the Israeli army and air force could avoid killing large numbers of civilians.
Il n'y avait aucun moyen pour une armée aussi puissante, aussi armée que l'armée israélienne de lancer des opérations sans faire énormément de victimes civiles.
This was going to cause a significant public relations problem for Israel.
Et ça allait causer des problèmes assez conséquents de relations publiques pour l'État d'Israël.
So Israel, working closely with the lobby, mounted a major public relations campaign in the United States and in Europe.
Israël, avec le lobby, a monté une gigantesque campagne de relations publiques aux États-Unis et en Europe.
As I watch the European leaders respond to Israel's behavior these days.
Alors, quand je vois l'attitude des dirigeants européens face au comportement d'Israël ces temps-ci,
they look like they are acting more and more like American politicians.
Ils ressemblent de plus en plus au comportement des politiciens américains.
I don't think that the Israelis have anything to fear from someone like Sarkozy, who is not much different than George Bush or Barack Obama will be.
Je pense pas que les Israéliens aient la moindre crainte à avoir de quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, qui est exactement comme George Bush et qui est comme le sera, je pense, Barack Obama.
Voilà l'analyse par téléphone de John Mersheimer, l'un des auteurs du lobby pro-israélien. Voilà comment le lobby travaille et influence un épisode
tel que celui que nous venons de vivre et qui est en suspens, suspendu au résultat des élections en Israël. Avouez que c'est un aspect des choses qui est assez peu connu dans les analyses, pourtant très nombreuses, et parmi les observateurs très nombreux et compétents qui regardent en permanence cette scène. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
Yo, APAC, come check my status. I'm acrobatic and emphatic when attacking Zionists.
Ouais, APAC, viens jeter un œil. Je suis acrobate dans l'emphase pour m'attaquer aux sionistes.
I can barely stand it cause I hear the same lines all the time. I take the words to wipe my behind.
Je ne supporte plus parce que j'entends toujours la même chose. Leurs paroles, je me torche avec.
Soundbites like slime oozing, grooving unoriginal. So whack, the arguments should be criminal. I can summarize their lines better than them. I'll give a free sampling to you, my friend.
Des mots comme de la bile, rien d'original, totalement débile, on dirait des criminels. Ce qu'ils disent, je te le résume, facile.
Israel only acts defensively and targets terrorists exclusively.
Israël ne fait que se défendre et ne s'en prend qu'aux terroristes. Parce que tu vois, Israël, c'est la seule vraie démocratie dans la région. Si la Shoah te rend vraiment triste, alors tu dois soutenir l'État juif. Si tu le critiques, c'est que tu es rongé par la haine. Nous avons signé la paix, mais les Arabes l'ont rejeté en se faisant passer pour des victimes. Ils sont balèzes pour ça. Ce n'est pas notre faute s'ils se sont tirés en 48 quand les armées arabes ont tenté d'en finir avec notre petit État perdu au beau milieu d'une mer de haine arabe. Nous ne voulons juste qu'une petite parcelle de terre. Nous ferons la paix quand Arafat respectera nos clauses. Fais-moi confiance, c'est nous qui voulons la paix. Les terroristes sont comme une maladie pour Israël et l'ami des États-Unis au Moyen-Orient. Nous combattons le même ennemi. En 35 secondes, je te balance la rhétorique israélienne mieux qu'eux-mêmes, parce que leurs arguments sont faibles. Et je les ai tous entendus avant. Et ça ne tient pas face à la vérité. Et maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Dire la vérité. Alors attention, la voici.
Alors John Mersheimer nous a expliqué comment les PAC agissent sur les médias, mais voyons comment le représentant de les PAC considère le problème. Voilà ce que Josh Block, porte-parole de l'EPAC, nous présente comme étant la stratégie CNN, des Palestiniens. Comment vous expliquez ce qui vient de se passer à Gaza, l'offensive sur Gaza? Comment vous l'expliquez?
Well, I would say, just personally, I think it's a tragedy every time there's an innocent person killed.
Moi, à titre personnel, je trouve que c'est toujours une tragédie chaque fois qu'il y a un innocent tué à cause du terrorisme.
And whether that person is murdered.
À cause du terrorisme ou à cause de l'armée israélienne?
I would say because of terrorism.
Okay.
And what I mean is, when Hamas fights and hides behind women and children.
Quand le Hamas se bat en se cachant derrière des femmes et des enfants.
Time and again. In the case of the UN school that was shot.
Par exemple pour l'école de l'UNRWA qui a été
a terrible tragedy.
Tiré sur laquelle on a tiré.
40 people were killed. In addition to two terrorists and their rocket launching cell.
Qui a provoqué une tragédie où 40 personnes ont été tuées en plus des deux terroristes qui se cachaient avec leurs roquettes.
It's a tragedy.
C'est une tragédie.
But it is a perfect example of what happens when terrorists choose to use the people around them cynically and involve them in their terrorism.
Mais c'est une tragédie, mais qui montre ce qui se passe quand des gens choisissent cyniquement d'utiliser les populations civiles autour d'eux pour se cacher.
As much as the Israelis who are victims of terrorism, so too are the Palestinians victims of Hamas.
De la même manière que les Israéliens sont victimes du terrorisme, les Palestiniens aussi sont victimes du Hamas.
And it is tragic to see civilians die.
Et c'est toujours tragique de voir des civils se faire tuer.
But Israel has been hit by over 8,000 rockets and mortars fired by Hamas.
Il y a plus de 8,000 roquettes qui ont été tirées par le Hamas sur Israël.
And over 6,500 since Israel left Gaza completely in 2005.
6,500. Yeah. Et plus de 6,500 depuis que Israël s'est retiré complètement de la bande de Gaza.
Combien ça fait de
victimes? That's thousands of acts of war. Think of this.
Pensez à ça, ça fait des milliers d'actes de guerre.
Of violations of international law.
De violations du droit international.
Inflicted on their society. Now,
qu'il faut, dont il faut poser le poids sur leur société. La différence après,
Israël a montré sa patience.
Ils ont essayé de faire un cessez-le-feu.
Hamas, as Egypt says, and others say, not Israel.
Et comme le dit l'Égypte,
Hamas broke the ceasefire.
Comme le dit l'Égypte, le Hamas, et comme le dit aussi l'Union européenne, le Hamas a rompu le cessez-le-feu.
But no country can be attacked for 8 years and let it happen.
Mais aucun pays ne peut se laisser attaquer pendant 8 années sans rien faire.
It reminds me of what Golda Meir said. In the 1960s or 70s.
Ça me rappelle ce que disait Golda Meir, l'ancienne Premier ministre, dans les années 60 et 78. Nous pouvons vous pardonner pour ce que vous nous faites, mais on ne pourra jamais vous pardonner ce que vous nous forcez à vous faire.
On voudrait vous parler du livre de John Mersheimer et Stephen Walt, Le lobby pro-israélien, contre lequel, évidemment, vous vous êtes dressé, vous avez fait des tas de critiques. Le livre a eu énormément de succès. Il a été traduit en 21 langues. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours aussi acerbe, vous faites des critiques toujours acerbes envers ce livre?
The interesting point about the Walt and Mersheimer book is it's had no impact in the United States of America because Americans understand it's a total lie.
Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il n'a eu aucun impact aux États-Unis d'Amérique parce que les États-Unis comprennent tout de suite que c'est un mensonge complet.
Il s'appelle Alan Dershowitz. C'est Alan Dershowitz que nous rencontrons ici à Miami, est une des figures les plus célèbres aux États-Unis de la défense inconditionnelle d'Israël et un critique acerbe et définitif du livre de Mersheimer et Walt, le lobby pro-israélien. C'est un homme célèbre, c'est un avocat célèbre, c'est un écrivain célèbre, un homme tout à fait cultivé et remarquable, mais qui considère cependant que la Convention de Genève ne comble pas ses souhaits en matière de torture. Il considère que l'usage de la torture dans la guerre contre le terrorisme est possible, et même il était partisan de la légaliser. Donc, un défenseur inconditionnel d'Israël et un battant, quelqu'un qui intervient très souvent, qui condamne, vous allez l'entendre très souvent. Avant de l'entendre sur ce sujet, d'entendre Alan Dershowitz sur ce sujet, c'est-à-dire Gaza, je voudrais faire observer que concernant l'offensive sur Gaza, quelqu'un comme Henry Zygman, ancien directeur de l'American Jewish Congress, conteste la version israélienne des événements qui ont précédé le conflit de Gaza, communément reprise par les médias. Pour Henry Zygman, je le rappelle, ancien directeur de l'American Jewish Congress, c'est Israël qui a rompu la trêve le 4 novembre au lieu de mettre à profit cette accalmie pour la consolider. Il a écrit un texte que vous pouvez trouver sur le site Contre-Info. C'est récent, c'est un texte tout récent qui date du 24 janvier 2009, ceci pour votre information et pour votre complément d'information. Donc nous sommes avec Alan Dershowitz et qui, lui, nous donne sa version du conflit de Gaza, du massacre de Gaza, et qui lui aussi est d'accord sur la stratégie CNN du Hamas.
I think a lot of Americans have seen through what Hamas calls their CNN strategy.
Et je crois que beaucoup d'Américains ont réussi à percer à jour ce que le Hamas appelle sa stratégie CNN.
And that strategy is they send rockets at Israeli children playing Russian roulette with the lives of Israeli children.
C'est-à-dire, cette stratégie, c'est quoi? C'est ils envoient des roquettes sur les enfants israéliens, ils jouent à la roulette russe avec les enfants israéliens.
They hide their rockets among civilians.
Ils cachent les roquettes parmi les civils palestiniens.
Not only knowing but hoping that Israel will kill many Palestinian civilians.
Et pas simplement sachant, mais en espérant qu'Israël tuera le plus possible de civils palestiniens.
And they're ready with their television cameras to show every dead Palestinian civilian, particularly children, around the world to engender hatred and opposition to Israel.
et ils sont prêts avec leurs caméras pour pouvoir filmer toutes les victimes civiles, tous les enfants morts et faire tourner ces images dans le monde entier pour encourager la haine vis-à-vis d'Israël.
Pourquoi les gens du Hamas, pourquoi les Palestiniens sont aussi monstrueux selon vous?
I don't believe they believe it's inhumane.
Je pense que c'est inhumain.
This is an extremist religious organization that brags about the fact that they love death.
C'est une organisation religieuse extrémiste qui revendique cet amour de la mort.
They have created a culture of death.
Ils ont créé une culture de la mort.
Oui, mais c'est ce qu'on disait autrefois de Yasser Arafat.
And in the early days, that was true of Yasser Arafat.
Au début, oui.
Remember that Yasser Arafat grows out of the Muslim Brotherhoods.
Il vient des frères musulmans.
You can trace Yasser Arafat directly to the Nazis in Europe.
On peut faire un lien direct entre Yasser Arafat et les nazis en Europe.
There's a direct link between Nazis and the Arafat Palestinian leadership and the Muslim Brotherhoods.
Il y a un lien direct entre les nazis et la direction de l'OLP d'Arafat et des frères musulmans.
Le village est désert.
Not a human or a stone.
Pas un humain, pas une pierre.
The village is empty.
Le village est désert.
The children are gone.
Les enfants sont partis.
And a mother rocks.
Et une mère se berce.
Herself to sleep.
Pour s'endormir.
Let it come down.
Tout s'écroule.
Let her weep.
Et elle pleure.
In the dead lane stream.
Et les morts gisent en formes étranges.
In the dead lane stream.
Petite poupée désarticulée,
caked in mud,
couverte de boue séchée,
smiles my hands,
de toutes petites mains,
found in the road,
sur le bord de la route,
they talk about war rings, word phrase, bombs that fall, America made the new Middle East.
Ils parlent d'objectifs stratégiques, tu parles, on lance des bombes. Made in USA, le Moyen-Orient que l'on dévore.
The Rice woman squeaks.
Et Madame Rice qui pérore.
And a mother rocks.
Et une mère se berce.
Herself to sleep.
Pour s'endormir.
And the dead land stream shapes.
Et les morts gisent en formes étranges.
And the dead land stream shapes.
L'eau changée en vin, le vin en sang.
Cana.
Le miracle.
Is love.
C'est l'amour.
The miracle. Is love. In the deadly extreme shapes.
Et les morts gisent en formes étranges.
C'est Patti Smith, traduit par Renaud Lambert. Donc on va retrouver Alan Dershowitz qui nazifie le camp et le leader palestinien Arafat. C'est une figure classique de la stigmatisation qui est à peu près aussi imbécile que la nazification symétrique. Mais Alan Dershowitz ne s'arrête pas là. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est très écouté, très célèbre aux États-Unis, dans la presse américaine. Par exemple, Jimmy Carter, l'ex-président Jimmy Carter, qui s'intéresse à la situation au Proche-Orient, a récemment publié un ouvrage intitulé « Palestine, la paix ou l'apartheid ». Eh bien, aussitôt, Alan Dershowitz a condamné ce livre, pourquoi donc ? Pour antisémitisme. Jimmy Carter, donc, est un antisémite pour Alan Dershowitz. Pourquoi ? Parce qu'il a levé, ce livre, a levé l'inhibition sur certains stéréotypes négatifs, comme le contrôle des médias par les juifs. Et il a également indiqué que Jimmy Carter avait reçu des millions de dollars de la part d'organisations anti-israéliennes et antisémites. On n'y va pas de main morte aux États-Unis, si bien qu'on a une auditrice qui, à la suite de l'émission d'hier, nous a envoyé un petit mail où elle nous dit « Hello à tous, je suis américaine, juive et vivant en France depuis 10 ans, et je reçois quasiment tous les mois des mails venant de mes parents inquiets de lire dans la presse américaine, mainstream et juive, comment les Français sont tous des antisémites, etc. etc. » Alors effectivement, dans les grands journaux comme le New York Times, il n'est pas du tout rare d'avoir des papiers indiquant, racontant comment la France est un pays antisémite, où on attaque les synagogues, etc. Et ça marche dans l'opinion américaine. Alors voilà comment Alan Dershowitz, tranquillement rencontré à Miami, voit notre petit bout de pays.
Who would have ever imagined in the 1930s or 40s that there'd be more anti-Semitism in France today than in Poland?
Qui aurait imaginé dans les années 30 ou 40 qu'il y aurait plus d'antisémitisme aujourd'hui en France qu'il n'y en a en Pologne?
And the anti-Semitism comes from different sources.
Il y a bien sûr différentes sources, cet antisémitisme.
Comes from extremist Muslims.
Des musulmans extrémistes d'un côté.
And that may be in some ways understandable, if not acceptable.
Et c'est peut-être pas, c'est bien sûr pas acceptable, mais c'est peut-être compréhensible.
But then it comes from many on the left, including many Jews.
Et ça vient de beaucoup de gens de la gauche aussi, y compris des juifs qui se positionnent politiquement à gauche.
And that is what's most disturbing.
Et c'est ça qui dérange le plus.
These are people who never ever march against what's going on in Darfur.
C'est des gens qui n'ont jamais fait de manifestation contre ce qui se passe au Darfour.
Who never complain about the murders committed by Muslim governments against their own people, whether in Iran, Iraq, Syria, and other parts of the world.
Qui ne se sont jamais plaints des massacres faits par des gouvernements musulmans contre leurs propres citoyens en Iran, en Irak, en Syrie et dans d'autres parties du monde arabe.
But every time Israel engages in an act of self-defense to protect its own citizens against enemies who use human shields.
Mais chaque fois qu'Israël entreprend des actions d'autodéfense contre des gens qui utilisent les populations contre, comme des boucliers humains,
it becomes an excuse for having a Nuremberg-type rally in the middle of France, in the middle of Britain, in many other countries, where you hear statements that you haven't heard made since the 1930s in Nazi Germany.
Et ça devient tout de suite l'occasion, le prétexte à des manifestations de type de Nuremberg, qui regroupent des centaines, des milliers de personnes en France, ou alors aussi en Grande-Bretagne, et avec des slogans qu'on n'a pas entendus depuis les années 30 et l'Allemagne nazie.
The intensity of the anger directed at it is almost erotic. It's almost sexual in nature. It's so extreme.
L'intensité des réactions est complètement disproportionnée. Il y a presque quelque chose de sexuel dans son extrémisme.
Donc vous pensez qu'il y a une majorité antisémite en France?
I can't count numbers. I can tell you that France has had a problem of anti-Semitism for at least 150 years.
Je ne peux pas donner de chiffres, mais je sais que la France a des problèmes avec l'antisémitisme depuis au moins 150 ans.
The end of the 19th century, the beginning of the 20th century with the Dreyfus trials.
Il y avait l'affaire Dreyfus à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
Enthusiastically deporting more Jews than even the Nazis asked for.
Ils ont déporté plus de Juifs avec plus d'enthousiasme encore que les nazis ne le réclamaient.
Having an insultingly tiny memorial for the Jews it deported in the middle of Paris.
Avec un petit mémorial ridiculement, d'une manière presque insultante, tellement il est petit, dans le centre de Paris, pour la mémoire des déportés.
Having less recognition than any other European country of the sins of its government and of so many of its people during the Holocaust.
Moins de reconnaissance que n'importe quel autre pays européen des péchés commis par son gouvernement dans la participation à l'Holocauste, du gouvernement et de son peuple.
And now doing not enough to protect its Jewish population against some of the rampages directed against it by Islamic extremists, by radicals, and by individuals, the number of anti-Semitic incidents in recent years has increased dramatically.
Et surtout, aujourd'hui, la France ne fait rien pour protéger sa communauté juive contre les menaces, contre les agressions antisémites qui n'ont fait qu'augmenter de la part de musulmans extrémistes, mais aussi d'individus.
Voilà le point de vue d'Alain Dershowitz sur l'antisémitisme en France. Vous connaissez bien cette question. Personne ne peut prétendre qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France, qu'il n'y a pas d'actes antisémites, mais on est bien loin, on le sait tous, de cette vision apocalyptique. Il faut rappeler quand même qu'un conflit se gagne à 20% par les armes et à 80% par la propagande, et que depuis 1948, Israël est un pays en guerre, est un pays qui n'a pas connu un jour de paix. Voilà. Et à l'intérieur de tout cela, eh bien, le lobby pro-israélien des États-Unis joue un rôle important. C'est ce que montre, encore une fois, je le répète, ce livre, le lobby pro-israélien. Et voilà, sur ce sujet, le point de vue de Stephen Walt.
Ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que l'une des armes les plus efficaces du lobby pro-israélien aux États-Unis, mais on va voir que on sait bien que c'est pas seulement aux États-Unis, c'est l'accusation ou le soupçon d'antisémitisme.
Right, virtually anybody who criticizes Israel's policies or who criticizes what the lobby is advocating is going to be accused of being anti-Semitic.
Oui, virtuellement tous ceux qui critiquent ou la politique d'Israël ou la politique menée par ce lobby pro-israélien sont exposés à se faire traiter d'antisémite.
This is done for several reasons. It's done to deter people from ever saying anything critical because no one wants to be accused of being an anti-Semite.
So déjà, c'est fait pour dissuader quiconque de tenir des propos critiques sur Israël parce que personne n'a envie de se faire traiter d'antisémite.
The second, it's used to distract people from the real issue.
Et c'est aussi fait pour distraire l'attention des gens des vrais problèmes.
Yeah, the real issue is American policy and Israeli policy.
Parce que le vrai débat pour nous, c'est la politique américaine et la politique israélienne.
But instead, you spend all your time defending yourself against this false charge.
La plupart du temps, on est relégué à passer la plupart de son temps à essayer de se dédouaner de ces fausses attaques, de ces accusations d'antisémitisme.
And finally, of course, calling someone an anti-Semite marginalizes them in the political community.
Et surtout, enfin, critiquer, stigmatiser quelqu'un en disant qu'il était antisémite, c'est l'exclure de la scène publique.
The good news is that this charge has been used so often and against some people for whom it is clearly nonsense, like former President Carter, that it's beginning to be discredited as a weapon.
Mais la bonne chose, c'est que cette arme de l'accusation d'antisémitisme a été tellement de fois utilisée à mauvais escient, en particulier avec l'ancien président Carter, dont tout le monde sait qu'il n'est pas antisémite, que l'arme est en train de s'émousser.
Genuine antisemitism is a horrible thing and it should be condemned.
Permettez-moi juste d'insister que le vrai, l'authentique antisémitisme est quelque chose d'horrible qui doit être condamné.
But it's also very important that we use that accusation only against people who are in fact anti-Semitic.
Et c'est pourquoi il faut utiliser et réserver cette accusation d'antisémitisme à ceux qui le sont vraiment.
And not against people who simply disagree with some aspect of Israel's policies or American support.
Et donc pas garder cette accusation honteuse pour ceux qui ne font que critiquer la politique israélienne ou l'alignement américain sur cette politique.
Alors à chaque fois on dénonce l'usage de cette arme, on dit tellement utilisée, tellement émoussée, mais les contrôleurs du discours public continuent de l'utiliser. Il est un moyen formidable d'intimidation. La dernière séquence en France, montrant Daniel Schneiderman face à Pierre Péan, insultant Pierre Péan, en est une preuve. Comment Josh Bloch, porte-parole de l'EPAC, considère cette question?
J'ai encore une question à vous poser sur l'antisémitisme. Ce qui vient de se passer à Gaza n'est pas sans conséquence, évidemment, dans l'opinion mondiale. On a vu des actes antisémites à nouveau se produire en France. Quelle est la politique de l'EPAC par rapport à ça?
I would say it's very
distressing to see anti-Semitism expressed anywhere in the world.
C'est toujours terrible de voir l'antisémitisme qui s'exprime n'importe où dans le monde.
And I don't think we should be looking for excuses or reasons.
Il faut pas chercher des excuses ou des explications à ça.
Moral relativism.
Le relativisme moral.
Is I think the disease of our time.
C'est vraiment la maladie de notre époque.
Because there is still right and wrong in the world.
Parce qu'il y a toujours un bien et un mal dans le monde.
Terrorists attacking free societies with the desire to overthrow them and impose Islamic rule.
Par exemple, des terroristes qui attaquent des sociétés démocratiques pour essayer d'imposer par la force un régime autoritaire islamiste.
Is wrong.
C'est mal.
And anti-Semitism or bigotry or racism.
L'antisémitisme, le fanatisme, le racisme.
Is wrong.
C'est mal.
And abandoning your friends. Because it seems convenient is wrong.
Et abandonner ses amis parce que ça nous arrange, ça aussi c'est mal.
Voilà la réponse un peu erratique de Josh Bloch. Revenons pour finir cette séquence aujourd'hui à Stephen Walt sur l'influence des médias. Comment le lobby influence les médias? Et les médias?
Well, the same thing is that these groups work very hard to shape media coverage.
Ces groupes travaillent d'une manière très très pointue sur la manière de modeler la couverture médiatique qui est faite de cette histoire.
Partly by writing books and articles and papers themselves.
D'abord en produisant énormément de papiers, en faisant des articles, des livres et des débats sur ces questions-là.
By appearing on television and radio to present their views.
Faire promouvoir leurs opinions en passant à la télé et dans les médias.
And by complaining to newspapers or television or radio programs if they publish or broadcast anything that's critical.
Et puis aussi en critiquant, en attaquant les journaux, les télés, les radios qui vont faire entendre des voix qui ne conviennent pas à cette opinion-là.
So if there is an article published in the New York Times or the Washington Post that is critical of Israel or that presents Israel in a bad light, groups in the lobby, like the Anti-Defamation League, will immediately write a letter and protest.
Et par exemple, s'il y a des articles qui sont écrits dans le Washington Post ou le New York Times disant que le café Israël est mal ou en racontant ce qui s'y est passé, il y aura immédiatement une réaction. Par exemple, une association comme la Anti-Defamation League qui écrira pour critiquer, pour demander un droit de parole.
Est-ce que la presse résiste ou est-ce que la presse se couche face à ces pressions?
The press reaction is normally to bow to the pressure.
La réaction de la presse est souvent de plier sous la pression.
Not all the time.
Pas toujours, bien sûr.
But by and large, editors and reporters are very sensitive to this, and these groups are, you know, better funded, more energetic, more active. There isn't an equally powerful set of groups on the other side.
Disons que c'est non seulement les rédacteurs en chef et les journalistes sont plus sensibles à ces questions-là, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas de groupe d'égale importance qui puisse contrebalancer l'influence de ces groupes de pression-là.
And in the United States, at least, media coverage tends to be very pro-Israel.
En tout cas, aux États-Unis, la couverture médiatique des affaires proche-orientales est très pro-israélienne.
Much more so than in most of Europe.
Beaucoup plus en tout cas que dans la plus grande partie de l'Europe.
And much more so than in Israel itself.
Et beaucoup plus en tout cas qu'en Israël.
Beaucoup plus.
Where Israelis are often very critical of what their government is doing.
Les Israéliens sont souvent très très critiques sur ce que fait leur gouvernement.
But you don't see very much of that in major American newspapers, major American media. That's changing a little bit now.
Et on voit pas ça dans les grands journaux, les grands médias américains, même si c'est en train de changer aujourd'hui.
I think our book is a sign of that, of people wanting more open discussion of this issue.
Notre livre déjà est un signe de ça, que les gens demandent un débat plus ouvert sur ces questions-là.
Former President Carter's book, Palestine, Peace, Not Apartheid, also had a very large impact.
Et il y a aussi le livre de l'ancien président Jimmy Carter, Palestine, la paix ou l'apartheid, qui a eu aussi un très grand impact.
And there are now a number of groups within the American Jewish community, like J Street or the Israel Policy Forum, that also don't think American policy has been correct and would like a more open discussion of it.
Il y a même des groupes au sein de la communauté juive américaine, comme J Street, qui jugent que la politique américaine n'a pas été bonne jusqu'à maintenant et qui voudraient qu'il y ait un changement de la politique américaine, qui ne soit plus simplement dans le sens d'un alignement.
Et vous considérez que votre livre a contribué à ouvrir le débat?
I certainly hope so, because that's why we wrote it, was to try and get a discussion.
Parce que c'est pour ça qu'on l'a écrit, c'est pour essayer d'ouvrir la discussion.
Stephen Walt, on le retrouvera demain avec John Mersheimer, Josh Bloch et d'autres comme Daniel Levy, Alan Dershowitz probablement aussi. Merci à tous, c'était un reportage avec Guy Van Til. Le bouquin, je rappelle le titre, Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine de John Mersheimer et Stephen Walt, c'est aux éditions La Découverte. Et puis, à noter la troisième édition du festival de films documentaires de Confluence, qui aura pour thème cette année Cinéastes contre la guerre et l'occupation, de beaucoup de films de cinéastes palestiniens et israéliens engagés contre la violence de l'agression israélienne à Gaza, qui seront présentés. Le festival aura lieu du 14 au 28 février à Confluence, à Paris, 190 boulevard de Charonne, c'est dans le 20e arrondissement. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, à la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Julien Chabassus, et Koyen Guyenne et Raphaël Moutéad qui auraient réalisé cette émission. Vous aviez remarqué les traductions de Renaud Lambert et de Charlotte Perry, qui est devenue maintenant la traductrice également. Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.